Et nos regards, Michel Halberstadt.
Bonjour, 10e émission de notre série Les 10 films qui ont changé nos regards. Alors il n'y a pas de 10e film, il y a un homme qui a certainement changé mon regard sur le monde et sur le cinéma. Pour cette dernière émission donc, aujourd'hui un entretien avec Jean-Luc Godard. La première fois que j'ai parlé à Jean-Luc Godard, c'était au Festival de Cannes en mai 1985. C'était la conférence de presse qui suivait la première projection mondiale du film Détective, avec Johnny Hallyday et Nathalie Baye, dans un grand salon cannois. C'était l'affluence des grands jours, la presse se précipite à ce genre d'événement, mais généralement c'est plus pour venir au spectacle que pour poser des questions. Au bout d'un moment, moi je me lance et je pose une question à Jean-Luc Godard sur John Cassavetes, et je lui dis « Vous avez dédié votre film à Cassavetes, pourquoi? Quel lien y a-t-il entre son cinéma et votre film ?» Réponse de Jean-Luc Godard. Vous travaillez dans quel journal, vous? Je réponds, magazine Première. Et il me dit, ah ouais? Depuis quand ce magazine s'intéresse au cinéma? Tout le monde se marre, je me vexe, j'insiste. John Cassavetes fait des films parce qu'il a une cause à défendre. Vous, quelle cause défendez-vous dans votre film? Et là, Godard marque une pause et dit, bonne question, j'en sais rien, mais je fais des films pour le savoir. Un an plus tard, coup de fil dans mon bureau à 9h du matin, je suis passée au magazine Première, rédactrice en chef, et Godard m'annonce qu'il va tourner Le Roi Lear. À New York, puis à Roll. Et là, il a cette phrase inoubliable. Alors voilà, pour mon film, j'ai besoin d'une femme qui joue la rédactrice du New York Times. En gros, j'ai besoin d'une grande gueule, alors j'ai pensé à vous. C'est comme ça que je me suis retrouvée une nuit sur un tournage de Jean-Luc Godard en Suisse avec Julie Delpy, Léo Scarrax, Molly Ringwald, Burgess Meredith. Et moi, j'ai une scène dans le film où je joue assise à la droite de Jean-Luc Godard et devant nous, Freddy Buach, le patron de la Cinémathèque Suisse. Inoubliable. En 2001, je suis devenue distributrice et les circonstances ont fait que nous avons distribué un film de Godard qui s'appelait Éloge de l'amour. D'ailleurs, comme il n'aimait pas le no-go de notre société, il en a fait un autre. On ne s'est jamais parlé depuis, on n'a plus eu aucun contact. Et puis France Culture me propose cette émission cet été. Et là, j'ai tout de suite pensé à Jean-Luc Godard. Pourquoi ? Et bien parce qu'il a réalisé Le Mépris, qui est quand même un des plus beaux films du monde. Parce que son étoile rayonne, encore et toujours, dans le monde du cinéma et de la culture. Parce que pour moi, il se situe quelque part entre, je dirais, Picasso et Lévi-Strauss. Parce que je l'admire. Alors est-ce qu'il aurait envie de parler ? J'en sais rien. Je lui fais passer une lettre. Et miracle, il me fait savoir que je serai la bienvenue. Alors je suis allée le voir. Je suis partie à Genève. Et manque de bol, je suis tombée le jour où Joe Biden y rencontrait Vladimir Poutine. C'était pas l'idée du siècle, mais je me disais dans mon train que ma journée serait aussi mémorable que la leur et certainement plus passionnante. Alors à l'arrivée, cet entretien était trop formidable pour qu'on n'y consacre pas toute une émission. Alors que faire? J'avais le choix, je pouvais évoquer deux films en une émission, ça aurait été injuste. Je me suis dit non, on va prévoir un film en moins, mais lequel enlever de la liste? J'arrivais pas à trancher. Alors je me suis dit que le sort déciderait pour moi, et c'est ce qui s'est passé. C'est tombé sur Le Voyage de Chihiro de Miyazaki, c'était celui-là mon 10e film, et Albert Dupontel devait venir en parler. Et puis fin juillet, il m'a prévenu qu'il était en repérage dans des coins totalement reculés, avec une connexion incertaine, il valait mieux ne pas compter sur lui. Exit Miyazaki. Jean-Luc Godard donc, il vit dans sa petite maison à Roll. À l'intérieur, l'ascétisme règne. Je n'ai pas visité l'étage, mais en bas, en tout cas, il y a deux pièces qui n'en font qu'une, puisque l'une est dans le prolongement de l'autre. Le sol est en dalles grises, il y a très peu de meubles, des cartons empilés. Nous nous asseyons face à face. Moi, je me mets devant l'écran de télé et le lecteur vidéo dans un fauteuil noir, lui dans un canapé. Une lampe est posée sur un tabouret à sa droite. Et ce qui me frappe dans cette pièce dont les murs sont complètement nus, c'est que la lumière est belle. Nous sommes à distance, Covid oblige. J'aurais dû prévoir deux micros, mais je n'en ai qu'un. Alors je le confie à Godard, il installe mon micro sur une sorte de pied devant lui, il allume son cigare, il est prêt. L'entretien qui suit ressemble davantage à une conversation qu'à une interview. Jean-Luc Godard a 91 ans, sa voix est très chevrotante, mais si un jour je devais avoir son âge, je me souhaite d'avoir un cerveau aussi vif que le sien. Nous avons commencé à bavarder pendant que j'installais mon magnétophone. Alors voilà, ma première question découle du début de cette conversation.
Non, ça s'est fait petit à petit, vu les derniers films que j'ai faits. Ça s'est fait philosophiquement aussi, parce que là, on parle encore, comme je dis souvent, j'en parle, on parle un langage de, qui est donné par l'alphabet, qui est autrement. Et pour moi, il y a une erreur au départ, mais il y a des milliers d'années quand il, après Babel, comme ça, qui s'est, et qui fait que, qu'on est sous le régime des lettres, que le cinéma est, ce sont des gens de lettres, quand même.
De lettres au titre de alphabet, vous voulez dire ?
Oui, ouais. Oui.
Oui, on n'est pas comme les animaux, quoi, qui n'ont pas besoin de mots.
Ils en ont besoin, mais ils les parlent, ils les disent, et ils n'ont pas besoin d'alphabet. Ils les parlent autrement et communiquent très bien entre eux, comme ils veulent, que ce soit pour répondre aux attaques des prédateurs et comme ça, et qu'en fait, moi je m'en suis aperçu petit à petit, je m'en suis séparé un petit peu, je suis arrivé dans le cinéma, dans un monde que je ne connaissais pas, qu'on a connu avec quelques amis, et puis petit à petit... Je me suis aperçu que, oui, il y avait des volontés de s'évader de ça, qui a fait un moment où j'ai eu un certain succès, et puis après, non, c'était pas fini, parce que on refait pas le monde tout seul, si vous voulez.
Mais vous refaites le cinéma tout seul, quand même.
Non, j'ai essayé ou j'ai voulu, je n'ai même pas essayé, ça s'est fait comme ça. Pendant longtemps, je suis parti sans scénario. Petit à petit, le scénario a été un peu l'ennemi, dans la mesure où le scénario avec les scénaristes classiques il y a 50 ans, il y a un demi-siècle, était de la littérature. Il y avait eu un très bon article, Truffaut, qui racontait comment Orange et Bost avaient adapté le journal d'un curé de campagne, et comment, à la fin du reste, les dernières phrases du curé de campagne de Bernanos, et après tout, qu'est-ce que cela fait ? Tout est grâce. Et Orange et Bost avait supprimé le « tout est grâce », ça finissait autrement. Et Truffaut le montrait très bien. Et donc tout ce qui était scénario et dictature d'une certaine écriture ou dictature du sujet ne s'intéressait plus à l'objet. Et donc... petit à petit, dans mes derniers films, j'ai repensé aussi à... Mais à quoi penser Nicéphore Niépce quand il a essayé de photographier un paysage? Pourquoi voulait-il le garder? Daguerre faisait autrement à ce moment-là. Et puis il a pris les rênes du pouvoir de la photographie financièrement. Et Nicéphore Niépce a été... Et je sais, mais même quand les frères Lumière filmaient la sortie des usines Lumière, ils n'avaient pas de scénario. Ils ne se disaient pas, ben, tel ouvrier va sortir là, l'autre comme ça, puis derrière, il y aura comme ça, c'est-à-dire... Ensuite, Langlois a montré qu'il y avait quand même une certaine notion de mise en scène chez Lumière. Mais donc, il n'y a pas de scénario. Et puis, dans l'histoire du cinéma, je me suis intéressé petit à petit à l'histoire du cinéma. Ça venait naturellement de notre passé à la Nouvelle Vague, où on allait beaucoup au cinéma. Je suis allé beaucoup plus au cinéma que Becker, par exemple, ou comme Clouzot, ou comme ça, qui allait voir quelques films et qui n'allait pas... tout le temps passer leur après-midi au cinéma. Et donc, on voit petit à petit comment ça se passe d'abord. Il y a quelque chose d'or que la peinture n'a pas fait. Que la peinture n'a fait. Elle cherchait autrement Et puis quand elle est arrivée avec les impressionnistes un peu à la fin, elle est passée un peu à l'art abstrait. Mais dès qu'elle est passée à l'art abstrait, aussi bien que les surréalistes qu'avaient d'autres peintres comme, mettons, Mondrian, quand il fait un carré blanc ou un carré noir, il y avait toujours les titres. Les titres. Et les titres, c'est... Dans la banque aussi, il y a des titres. Il y a même des scandales de titres ou de trucs comme ça. Et donc la littérature a repris un certain contrôle. Les premiers films, enfin, quand... On le voit très bien dans l'histoire du cinéma, comment petit à petit, et si on se demande, mais comment ça s'est passé? Il y a un plan en relief, puisqu'on a deux yeux, et on voit les ouvriers sortir. Bon, mais après, il y a un deuxième plan, c'est l'objectif. Il y a déjà une vitre. Et ensuite, on va sur une plaque ou sur quelque chose. Aujourd'hui, on va sur l'électronique ou sur les trucs comme ça. Donc, on est dans une... qu'on appelle représentation. Et un écrivain palestinien, Edouard Saïd, délégué en Amérique, j'ai mis dans mon tout dernier film, dit qu'il y a une très grande violence entre l'acte même de représenter. Je vois avec, dans une affaire judiciaire aujourd'hui, avec mon avocat, avec lequel ça ne va pas du tout. Il est supposé me représenter. Comment est-ce qu'il peut me représenter? Enfin, tout ça sont des demandes où j'utilise pour parler, même pour parler avec moi-même, mais de plus en plus rarement, j'utilise les lettres de l'alphabet. Aujourd'hui, dans les films, ce que vous voyez dans les trois quarts des films d'espionnage ou d'autres, maintenant c'est bourré de mains qui tapent sur un clavier. J'avais étudié la manière dont comment marche la machine à écrire et la manière dont on tape dessus. Je me souviens d'un film de Wenders sur la Chialamette qui se faisait abîmer le portrait par je sais pas qui, des policiers ou je sais pas quoi, et qui après l'avoir battu à mort si possible, lui disait « Eh ben maintenant va taper. Nous on a tapé, toi va taper à ta machine. » Bon, des tas de choses comme ça qui sont venues petit à petit. Ce qui fait que quand je me parle à moi-même, je commence à parler très peu. Parce que sinon, j'en sors pas. Et je veux avoir, et du reste, j'ai fait un film là-dessus qui s'appelle Le Dernier Mot. Je veux avoir le dernier mot. Enfin, voilà où j'en suis. Donc je parle très peu. Il y a quelque chose d'autre que la peinture a approché, même certains peintres abstraits, tout de suite après la libération. Et puis après, c'est devenu des trucs pour Monsieur Pinault, je sais pas quoi, pour acheter des œuvres, ou Madame Prada pour acheter des œuvres.
Jean-Luc, qu'est devenu la critique de cinéma?
La critique, au début de Positif, des Cahiers du cinéma ou d'autres revues avant, pas de la revue du cinéma. C'était le changement avec la nouvelle vague ou tout ce qu'il y a eu autour. Il parlait un peu des films. Après, il n'en parle plus. Ils disent leur avis sur les flics. C'est comme sur les films. C'est comme si la troisième partie de l'appareil enregistreur avait oublié les ouvriers qui sortent des usines lumière et qu'ils disaient ce qu'ils voient. Ce qu'ils voient, c'est des ouvriers qui sortent de là. Hein, mais ça n'a rien à voir avec la sortie des usines lumière. Non, c'est qu'on ne peut plus parler. On peut très peu parler. Parce qu'on parle très peu des choses. Et même ceux qui ont envie de parler des choses et qui pourraient, ne peuvent plus vraiment. Donc il y a quelque chose qui ne va pas avec, avec l'alphabet, avec la parole n'est pas ce que les gens appellent la parole, c'est la voix. Donc tout ça fait que on a en fait peu à dire.
Ce n'est pas un hasard.
Comment ça ?
Oui. Il y a l'entrée de service et l'entrée principale. Eux, ils entrent par la grande entrée dans l'appartement du monde. Et ils nous laissent l'entrée de service, monsieur. Les mots.
Par notre usage de la parole, nous sommes amenés à constater que les mots nous présentent des idées.
L'homme fabrique des idées. C'est un téméraire fabricant d'idées.
La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui découle de cette faculté
humaine.
Encore
un mot.
Mademoiselle.
Vous connaissez la phrase de saint Augustin. La mesure de l'amour, c'est aimer sans mesure.
Oui.
C'est un extrait d'Éloge de l'amour, Jean-Luc Godard, 2001. Jean-Luc Godard, quelle place occupait le cinéma dans votre vie lorsque vous étiez enfant ?
Le cinéma était au début un continent disparu, dont nos parents ne nous avaient pas parlé. Et ma mère, je l'ai souvent dit, ma mère, avant ma naissance, n'avait vu que des films muets. Et du reste, j'ai eu des moments dans ma vie d'enfant où j'ai cessé de parler.
Consciemment ?
Oui, consciemment, parce que c'était après avoir lu un livre de Brice Parrain qui s'appelait « Recherche sur la nature et les fondements du langage ». Et j'ai cessé de parler. Et du reste, j'ai fait tourner Brice Parrain dans « Vivre sa vie » après.
Qu'est-ce qui, dans ce livre, vous a donné...
Ah, je sais pas. Je sais pas. C'est l'histoire. L'histoire ne raconte pas un des derniers qui l'ait raconté, c'est Michelet. Parce que la photographie n'existait pas encore. Et qu'il avait encore des grands-parents, des amis de ses parents qui avaient vécu. Donc il y avait encore une langue directe. Même c'est comme, on dit toujours c'est comme, mais on ne fait pas l'image qui devrait venir avec comme. On dit c'est comme et on dit une autre phrase. On dit pas c'est comme ce coucher de soleil, c'est tel impressionniste ou ce jardin chez Pissarro. Non, parce que là les gens disent ah bon, non. Mais oui, il ne saurait pas. Tout ça, moi je suis juste occidental, je connais très mal est-asiatique. Je remarque l'historique là, de Romain Goupil, par exemple, qui maintenant est devenu un speaker de LCI de temps en temps comme ça, qui fait... Enfin, un vrai beauf pour moi. Et comme ça, et que j'ai connu tout le monde. Il n'a pas du tout eu la seule éducation que moi. Il a chanté, je sais pas, Banieré Rossa bien avant moi. Moi, j'ai appris bien après, à 35 ans ou comme ça. Mais les historiques, il m'a beaucoup aidé sur certains films. Sur Sauf qui peut la vie, et ensuite sur Allemagne 9-0, où il a dû tourner des choses tout seul. Je vois très bien ce qu'il a tourné tout seul par rapport à ce que j'ai tourné, commence avec que même Eddie, que Eddie Constantine n'était pas bon si c'était Romain qui faisait ça. Mais nos histoires se sont croisées.
Et qu'est-ce que vous dites quand vous le voyez sur LCI? Comment vous expliquez un parcours?
J'écoute un peu et puis Dany un peu moins. Parce que Dany est généreux et Romain, à mon avis, ne l'était pas. Dany garde un côté généreux, mais il a perdu pied. Pendant longtemps, tous les 22 mars, je lui envoyais un petit mot aujourd'hui. Je lui envoyais encore une dernière fois, et puis il répond pas, ou il répond des âneries, genre Jean-Luc, le dernier grand cinéma, enfin bref. Non, mais ils peuvent pas. C'est autre chose.
Lequel a pu le plus longtemps,
vous? Oh, sur le fond, c'est Dany. Sur le fond, c'est Dany, ce que je l'ai connu. Même, je l'ai approché à Nanterre à l'époque, où il y avait, quand Nanterre était encore des bâtiments neufs dans un océan de boue et de gravats en 65, 64. Et comme ça. Et puis il a participé un petit peu quand même à Vendest, il a essayé d'être honnête.
Cette fois, c'est le moment d'ouvrir une deuxième parenthèse et de décrire les sentiments des personnages.
Café.
Arthur regarde sans arrêt ses pieds, mais il pense à la bouche d'Odile, à ses baisers romantiques. Odile se demande si les deux garçons ont remarqué ses deux seins qui remuent à chaque pas sous son chandail. Je pense à tout et à rien. Il ne sait pas si c'est le monde qui est en train de devenir rêve ou le rêve monde.
Le chapeau d'Anna Karina, le pull jacquard de Claude Brasseur, le costume rayé de Samy Frey et le Madison de Michel Legrand, c'était Bande à part en 1964. Jean-Luc Godard, si vous deviez expliquer le cinéma à un enfant, vous feriez quoi?
Je crois que je le ferais pas. Je crois que je le ferais pas ou j'oserais pas le faire. J'ai fait des films avec des enfants, je les fais à ma façon, dans tout le monde, deux enfants. Eh ben, les seuls parmi ceux qui me sont tombés dessus assez méchamment, comme ça, c'était Truffaut. Disant, on ne parle pas comme ça à des enfants. Et bizarrement, Doldo aussi, Françoise Doldo, qui se disait, on ne parle pas à des enfants. C'est vrai, je leur parlais comme s'ils étaient des grandes personnes. Je n'ai pas d'enfants, je ne pouvais pas faire autrement. Mais je veux dire, ces deux personnes se sont rejointes. Pour moi, se sont rejointes dans quelque chose, même pas une critique du film. C'est immoral, ça ne se fait pas, c'est dégoûtant, ou je ne sais pas quoi.
Les enfants, voilà, elle est très bien, eux.
Mais ils sont très bien. Ils sont très bien, ils étaient contents, ils ont reçu un vélo, ou je ne sais pas quoi, et ils répondaient honnêtement. Il répondait comme il pouvait, où il se taisait. Le garçon avait plus, était, disons, un peu moins que, je sais pas s'il faut dire le mot courtois ou le mot intéressé que la fille, parce que au bout d'un moment, je posais aussi mes questions, est-ce que c'est noir ou est-ce que c'est blanc? Et lui avait commencé à comprendre qu'il fallait juste dire les deux ensemble. Et ce qui était vrai.
Oui.
Ce qui était vrai, mais que je ne faisais pas attention. Elle cherchait plus, ça l'intéressait. De par sa situation dans la vie, dans sa famille, etc.
Vous diriez que le cinéma, il doit plutôt chercher à expliquer le réel ou à l'idéaliser ?
Mais il sait plus que c'est le réel. Il le scénarise, puis il le dit, il ne reçoit plus du réel. Il est peut-être trop difficile à recevoir aujourd'hui.
Il ne...
Non, parce que le documentaire fait la même chose. Il reçoit le réel sur... ou il reçoit l'objet sur ordre du sujet. Du reste, on ne sait plus très bien. Pour moi, entre le sujet et l'objet, c'est un peu la même chose. Du reste, il y a 300 ou 400 ans, sujet et objet étaient inversés. C'est du fait aussi que le dit peuple était sujet du prince, donc l'objet était chez ce qu'on appelle aujourd'hui le sujet. Mais en même temps, quand on vous demande des sujets de composition, tout à coup il redevient objet.
Il y a des metteurs en scène dont vous aimez tous les films ?
Avant, j'absolvais tout metteur en scène dont j'avais aimé un film. C'était l'époque de la Nouvelle Vague. Puisque c'est un auteur, on l'aime, bon ou mauvais, c'est le nôtre. Voilà.
Ça, c'est fini.
Non, c'est fini. Les films d'auteur, aujourd'hui, la pire engeance qui soit. peu importe, j'en vois de temps en temps à la télé. Mais je ne suis plus du tout là-dedans. Des fois... pour regarder, tiens, comment ils font, comment c'est fait, qui était sur le plateau à ce moment-là, comment ça se fait, et qu'est-ce qu'elle veut faire. Je crois que j'ai vu il n'y a pas longtemps, mais à la télé, on ne voit pas, c'est pas le troisième lieu d'enregistrement, c'est le cinquième, sixième, septième ou comme ça. Donc il faut pas étonner que c'est plat. Et en plus, ce qui m'ennuie, c'est que l'écran est plat. Et que je trouve un peu dommage que le cinéma, dit en relief, est tombé sous le coup des lettres. Et n'est pas continué. Parce que, effectivement, sinon, c'est plat. Ils ont rejoint cette place. Ils sont synchrones avec ce plat. Et c'est plat. Et ce plat, c'est comme disait Céline, que j'ai cité souvent, c'était ce qui est difficile, c'est de mettre du plat dans la profondeur. Or là, tous les gens mettent de la profondeur, mais de la profondeur de l'être, et pas de. Pas d'espace ou comme ça, on le voit, il y a des recherches, ils essayent de faire ce qu'on appelle des beaux plans. Moi aussi, je l'ai fait. Et si j'en fais encore, j'essaierai encore de faire ça. Mais c'est pour ça que je suis content, ayant été l'ennemi du scénario et des lettres, de pouvoir, pour mes deux derniers films, de faire juste des scénarios.
Et il y a quoi dans le scénario alors ? Il y a surtout des photos.
Oui, surtout des photos. On vous montrera, on peut lui montrer là où elles sont. Hein. Et qu'ils ont accepté. Et donc, ils ont accepté. Et ils ont accepté sans le dire. Alors que le producteur, quand il lit un scénario, essaye de comprendre ce que c'est que le scénario. Est-ce que c'est un dentiste qui part avec sa femme aux Bahamas? Ou est-ce que c'est l'attaque d'une bijouterie? Ou est-ce que c'est les misérables? Il essaye ça. Tandis que là, ils n'ont rien dit. Ça s'est fait comme ça.
Et au départ, la demande, c'était quoi?
Un film de Godard.
C'est ça. Libre.
Voilà, mais ça, mais c'est de la littérature. Donc je me suis obligé à leur dire, voilà ce que peut faire votre Godard.
Et leur Godard, c'est qui ?
Je sais pas.
Bah, si, vous l'êtes imaginé en faisant le scénario, puisque vous dites, voilà ce que peut faire votre Godard.
Mais voilà une idée de départ. Je vais aller marcher sur la plage, je vais monter sur le plongeoir et je m'élancerai. Mais où j'atterrirai, je ne sais pas. Voulez-vous accompagner ça? J'ai toujours eu ça pour quasiment pour tous mes films. Mais là, encore plus. Et c'est rarissime. Donc on trouve des gens qui sont un peu... On trouve, ou des gens me trouvent, qui sont un petit peu pas mécontents de sortir de leur bureaucratie habituelle. Voilà, un tout petit peu.
On peut aussi dire cyniquement qu'ils s'offrent un tableau d'un peintre connu.
Oui, mais ça n'a... Moi, je dois défendre juste mon honneur, là. C'est ce que je fais. Je suis comme une prostituée qui défend son honneur et qui dit pas sur la bouche. Voilà.
Il y a une époque où vous aviez créé Périphéria, vous aviez un...
Un moment, j'ai... Mais,
autour de vous,
ouais. Oui, mais ça a commencé en 65, quand je me suis aperçu aussi que pour... plutôt que d'être un auteur, metteur en scène, un peu à part, mais il fallait que, plutôt que j'ai une petite structure de production, comme ont eu d'autres gens, comme avait eu Truffaut, du reste, Chabrol et d'autres gens, qu'il fallait que j'ai, et que ça soit plutôt un peu mon style à moi, avec un directeur de production à l'époque qui venait du catholicisme, qui venait, comment ça s'appelait, des films du Parvis et de ce qui est devenu Télérama. Et puis, petit à petit, je me suis aperçu que je retombais, je ne disais pas dans les lettres à ce moment-là, mais je retombais dans les lettres de la finance, dans le pouvoir. Les lettres à la finance, on fait les choses comme ça, pas comme ça, on vous donne tant. Et que sinon, je devais... engager les stars, et ça a marché une fois, par hasard, mais sans que je l'aie demandé. Même à bout de souffle, ça n'a jamais été Belmondo et Gene Siverg, ça s'est fait petit à petit. Je me souviens qu'il y avait Sacha Distel et Annette Vadim, il y avait Bernadette Lafont et Charles Aznavour. Et puis petit à petit, c'est venu comme ça.
New York Herald Tribune!
Je te le rends, il n'y a pas d'horoscope.
Qu'est-ce que c'est l'horoscope?
L'horoscope, c'est l'avenir. J'ai envie de savoir l'avenir, pas toi?
Moi aussi. New York Herald Tribune! Qu'est-ce qu'il y a?
Rien, je te regarde.
Vous êtes fâché que j'ai parti sans dire au revoir?
Non, mais j'étais furieux parce que j'étais triste. T'agréable pas de s'endormir, mais de se réveiller à côté d'une fille.
Vous allez rester à Paris?
Oui, il faut que je voie un type qui me doit de l'argent. Après, il faut que je te voie, toi.
Non, il ne faut pas.
Pourquoi?
Il y a beaucoup de filles à Paris plus jolies que moi.
Non, c'est drôle. J'ai couché avec deux filles depuis qu'on s'est vues. Eh bien, ça gazait absolument pas.
Gazé, qu'est-ce que c'est?
Elles étaient très jolies, mais ça gazait pas, ça marchait pas, c'était triste. Alors, tu veux venir à Rome? Moi, j'en ai marre de la France.
Mais je ne peux pas, Michel. Je dois m'inscrire à la Sorbonne. Autrement, mes parents m'envoieraient plus d'argent.
Je t'en donnerai.
Mais on a passé que 3 nuits ensemble.
Non, 5. Pourquoi tu mets jamais de soutien-gorge?
Écoute, parle pas comme ça.
Bon, je m'excuse. Il est quelle heure? On se revoit tout à l'heure?
Non, pas tout à l'heure. Ce soir. Oui?
Yes. Où ça?
Oh, ici.
La musique de Martial Solal, Gene Siberg, Jean-Paul Belmondo, Les Champs-Élysées, c'était À bout de souffle en 1960. Jean-Luc Godard, pourquoi aviez-vous envie de faire des films en Amérique ?
C'était le désir, et puis l'Amérique, il y a beaucoup d'auteurs américains que j'aime beaucoup, comme Faulkner. J'ai longtemps cherché à faire un film d'après, oh, j'ai oublié son nom, une histoire de couple. Ça a duré longtemps, mais au début, c'était simplement parce que c'était notre, une sorte de marraine, l'Amérique. On connaissait certains auteurs, pas des plus, forcément des plus connus. Et puis, il y a eu tout un mouvement, ensuite, après la Nouvelle Vague française, où il y a eu une espèce de mouvement Nouvelle Vague en Italie, au Canada, au Québec, surtout pour nous. Et puis, en Amérique, aux USA. Et puis, à un moment, j'ai été aussi... par un ami américain qui s'appelait Tom Leudy, aidé par Coppola à ne rien faire, et comme ça mettre en route, j'avais un projet de film plutôt, qui s'appelait documentaire à l'époque, qui partirait d'une ville de l'Amérique qui s'appelait... Oh, putain. Les mots sont là. Mais moi, de par ma position d'élève, je pense qu'ils se méfient de moi. Donc ils attendent à côté et puis ils se disent, on va pas lui dire. Là. Ça reviendra dans deux ou trois jours.
Jean-Luc Godard, ce virus, ce Covid, ça vous inquiète?
Ce truc du virus est très intéressant. On ne parle que des moyens de s'en défendre. Mais on ne sait pas comment il attaque.
Peut-être parce qu'on est pressé de s'en débarrasser.
Ben, il ne faut surtout pas être pressé.
Mais les gens meurent
pour l'instant. Les maladies, oui, mais ils meurent aussi d'autres façons et on n'en parle pas. Je pense la manière de faire en France, quand il n'y en aura plus qu'un qui sera mort... Alors on le célébrera, celui-là. Il sera connu tout le monde, mais celui d'avant, pas. Donc tout ça, c'est la phrase de... Oh là là. Elias Canetti. J'ai dû me mentionner que dans le dernier film, nous ne sommes jamais assez tristes pour que le monde soit meilleur. C'est comme ça.
Comment vous avez passé le confinement, Jean?
Ça ne me fait pas de différence avec le non-confinement.
En rien?
En rien.
Vous ne sortez pas plus?
Non.
Vous ne sortiez pas plus
avant? Non, non, non.
Et le monde n'est pas moins venu à vous pendant ce temps-là?
Non. Quelquefois, je reçois. Mais, merci, je fais attention. Ou un DVD que je regarde. Je fais attention à les regarder par respect pour celui qui l'a envoyé. Mais c'est tout, non. Non, non, c'est passé, c'est comme certainement comme étaient Becker, Clouzot, Une Belle, ou tout ça pour nous à l'époque.
Voilà. Vous avez dit dans une interview il y a un an ou deux que le pouvoir était passé du producteur au distributeur. Vous pouvez m'expliquer pourquoi?
La distribution vient comme une avance de distribution, ce qui était déjà dans le cas d'À bout de souffle. Mais je me rendais pas compte, mais À bout de souffle a été produit par des distributeurs de province. Mm-hmm. C'était ce qui existait pour beaucoup de films en France. Il y avait un distributeur à Bordeaux, un à Marseille, un dans le Nord, et un dans... Oui, je m'en souviens plus. Et qui avançait à beau regard des certaines zones. Et le distributeur de Marseille voulait que le film commence à Marseille. C'est pour ça qu'on l'a commencé. C'est à Marseille. Mais oui, c'est uniquement comme ça. Donc finalement, c'était... Et qu'aujourd'hui aussi, c'est des distributeurs et leurs avocats. Le producteur fait ce qu'il peut avec ça.
Pardon, moi je suis distributeur de films, j'ai jamais demandé à un producteur d'obtenir quoi que ce soit dans le film qui change pour me faire plaisir. Jamais. ça ne viendrait pas à l'idée. Alors qu'on préachète non. plein de films sur scénario.
Ben, vous préachetez.
Oui.
C'est-à-dire que vous distribuez déjà après achat.
Oui, mais je n'interviens pas dans sa fabrication.
Ah non, mais j'entends pas ça. Il n'y a pas besoin d'intervenir ou pas.
Ben, demander que le film démarre à Marseille, c'est intervenir quand même.
Oui, mais là, si vous dites que je serai un producteur, je serai intéressé à produire ce film. Et je vous donne, mettons, 3 millions d'euros d'avance. Est-ce que vous pouvez me faire le film ? Ben, je dis, c'est vous le producteur en titre, en essence, si vous voulez. Pas en existence, mais en essence. Le producteur devient juste un serviteur.
Mais le rapport avec le réalisateur, c'est le producteur qui l'a, c'est pas le
distributeur. Oui, oui, mais ça, le distributeur l'accepte, c'est la règle. C'est la règle. Il dit quelque chose si vous avez prévu d'engager tel acteur, telle vedette, et que le metteur en scène dit non, ça va être celle-là, vous avez le droit de dire quelque chose, de signifier, pas forcément par contrat, mais de dire « Ah ben ça sera un peu moins cher alors », ou des choses comme ça. Non, le producteur est un serviteur stylé, c'est tout. Hein, bon.
Mais comme... il l'a toujours été ?
Non. Non, il l'a pas été en Amérique, il l'a pas été en France, ni en Italie, ni en Allemagne.
Mais c'est venu quand alors ?
Parce que le film était représentant un peu de la nation.
Dans un restaurant, Jean-Pierre Léo se penche.
Un petit apéritif ?
Vers Nathalie
Baye. Madame.
Non, la carte.
Oui, la carte.
Claude Brancel.
Absolument !
Et là, Jean-Pierre Léo soulève un globe jaune et il allume une bougie.
Absolument.
Et il remet le globe jaune sur la bougie.
Alors, les avions.
Nathalie Baye caresse
fort, temps, votre
le globe jaune avec ses doigts.
C'est comme partout. Faut aimer.
Claude Brasseur, la main de Claude Brasseur, vient toucher les doigts de Nathalie Baye qui retire sa main et Claude Brasseur se brûle sur le globe jaune.
C'est là que vous vous êtes tenu.
Johnny Hallyday non. touche le globe jaune et les doigts de Nathalie Baye viennent caresser la main de Johnny.
Qui a acheté des cargos en détresse.
Merci.
Et dans son coin, Jean-Pierre Léo, le serveur, marmonne.
C'est quoi, goujonnette de sol au mousseron ?
La librairie. Je crois pas que ce sera
possible. Ce vrai livre, c'est parti de Liverpool.
Liverpool.
Et aussi, le voyage d'Edgar.
C'est quoi ça ? Paupiette en sang, mon chouvert.
Oui, la carte. C'est quoi, salade vaudoise ?
Bon, ben, 3 sandwichs, alors.
Le serveur est parti, furieux, en reprenant les cartes.
Ce que j'ai dit à votre femme. Des gens qu'il vaut mieux pas connaître.
Génial idée. Tout le monde à table s'observe.
C'est-à-dire ? Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Rien.
C'est à celui-là que l'argent que vous me devez vous avez dit.
Que vous nous devez.
Que vous me devez.
Nathalie Baye, Claude Brasseur, Johnny Hallyday, Jean-Pierre Léo, c'était un extrait de Détective en 1985. Jean-Luc Godard, je repense au livre de Moravia que vous avez adapté pour écrire Le Mépris. Est-ce que c'est mieux de partir d'un livre qui ne soit pas trop réussi ni trop long ?
C'est bien de ne pas partir d'un livre. Parce que sinon, ça, on est sûr que on va faire de la littérature pour écran. Ou comme on disait autrefois, du théâtre filmé.
Il ne faut pas dire ça du Mépris quand même.
Il y a un peu de ça.
Vous, de cette période-là, lequel est votre préféré ?
Aucun. Ils sont faits, c'est les...
Non, mais vous pouvez avoir un attachement comme ça, subjectif, affectif, à l'un plus qu'à l'autre. Quelle que soit la qualité du film. Juste vous, votre rapport au film.
Ça dépend quand j'en revois, mais à la télévision, c'est si je découvre des choses que je ne découvrais pas à l'époque. Je considérais Made in USA, par exemple, comme assez mauvais, racoleur et tout ça. C'est vrai. Je me souviens très bien comment on tirait à la ligne pour arriver à faire 1h20. Et aujourd'hui, je trouve que ce qu'il avait de bien, c'était surtout sur les couleurs, qu'il était assez peinture abstraite de ce point de vue-là, qu'il y avait quelque chose qui commençait, qui commençait seulement, qui était comme ça. Mais je trouve là, non, je n'ai pas de préféré, ou alors peut-être mes 5 derniers. Depuis Éloge de l'amour jusqu'à le livre d'images. Qui me correspondent plus, en fin de vie, bien sûr. Mais...
Un prix à Cannes, ça vous a fait plaisir, les 2 prix à Cannes? Ou ils sont venus trop tard, ou maintenant on s'en fout ou...
Ça vaut rien.
Non, mais ça peut faire plaisir.
Ça n'a rien. Ça me fait plaisir si je discute avec un flic une fois que j'essayais de filmer, qui me dit « on n'a pas le droit de filmer ». Et je dis, mais je fais mon métier. Et il me dit, non, on ne fait pas de film avec des petites caméras. Alors je lui ai dit, mais le film que j'ai fait avec des petites caméras vient d'obtenir un truc en or à Cannes. Voilà.
Du coup, il vous a laissé filmer ?
Oui.
Oui,
non, il est parti, il a dit, bon, ben ça va, on est... Non, c'est pas vrai qu'on fait des films, non. C'est pas vrai qu'on fait des films avec un portable.
Ah. Eh oui, ma bonne dame. Maintenant, ça arrive. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, du fait que n'importe qui peut faire un film ? Enfin, faire des images.
Mais n'importe qui peut faire ce qu'il veut, s'il y arrive. Ce qu'il peut, ce qu'il sait. Avec un crayon, vous pouvez faire... Si vous êtes Matisse, vous faire du Matisse, si vous êtes...
Vous restez nul.
Mais vous pouvez vous servir d'un crayon. Les enfants le font. Ils ne se posent pas ces questions.
Non, David. Il faut te préparer à la mort. Il faut pas qu'on sache la vérité. Si tu finis ton roman, tout le monde la saura. Puisque poésie égale vérité.
Non, enfin, madame, pourquoi vous parlez toujours par métaphore?
Si je te parle du temps, c'est qu'il n'est pas encore. Si je te parle d'un lieu, c'est qu'il a disparu. Si je te parle du temps, c'est qu'il n'est déjà plus. Si je te parle d'un homme, il sera bientôt mort.
Oh Paula, tu m'as dérobé ma jeunesse.
La 9e sonate de Beethoven et le gros plan sur Anna Karina, c'était un extrait de Made in USA en 1966. Alors si vous avez suivi toute la série des 10 émissions, vous avez pu entendre chaque jour ce que j'avais appelé l'instant Godard. Vous avez pu ainsi constater que les 10 films que j'avais choisis avaient fait l'unanimité contre eux auprès de Jean-Luc Godard. D'ailleurs, cette partie de l'entretien de Jean-Luc Godard, les réponses aux 10 questions sur les 10 films et un peu plus, il y a en gros 25 minutes d'interview que vous pourrez trouver, que nous ne pouvons pas diffuser ce matin parce qu'on n'a pas le temps, mais elles seront sur le site et sur la page de l'émission. Bref, vu l'unanimité contre mes 10 questions, vous imaginez à quel point j'appréhendais de poser les questions du questionnaire. En fait, c'est assez simple. Si vous voulez obtenir des réponses de Godard, eh ben c'est un peu comme se lancer à l'assaut d'une montagne. Alors si ça passe pas par la face nord, ben faut se déplacer et essayer de trouver un autre passage. En l'occurrence, poser une autre question, la reformuler, jusqu'à ce qu'ils veulent bien y répondre. Alors ils commencent souvent par dire non, mais c'est un peu comme un réflexe, une façon de lancer sa propre réflexion. Moi, en tout cas, j'ai pris ça comme un jeu. Je me disais que parmi les 7 nains, il avait choisi d'incarner Grincheux. Mais moi, je suis très sensible aux Grincheux. Je les vois un peu comme ces enfants, vous savez, les enfants qui boudent et qui vous guettent la tête baissée et le regard par en dessous, un peu l'air de dire « chiche que si je fais la tête, tu m'aimeras quand même ». Alors, place au questionnaire, Jean-Luc Godard, première question, comme tous les jours. Quelle est la première séance dont vous vous souveniez ?
Non, mais je vous dis, c'est des petits charlots passés... dans une case, dans des classes d'école primaire.
Donc en Suisse, encore.
En Suisse, à Nyon. Oui.
Vous aviez quel âge à peu près ?
6-7 ans.
La dernière séance de cinéma qui vous est marquée ?
Aucune.
Allez, Jean-Luc, un petit effort.
Aucune. Peut-être c'est un film de Vajda qui s'appelait Sans anesthésie, que j'avais vu à Genève dans un cinéma un peu bizarre, un peu étrange, qui était au premier étage. Et quand je suis sorti, je me suis évanoui. Voilà. Donc je me rappelle ça, c'est tout.
Vous vous souvenez, vous êtes évanoui.
Voilà.
Votre film de chevet.
J'en ai pas. Tous au chevet.
Oui, mais il y en a un qui est plus proche du cœur que l'autre.
Non.
Plus un doudou,
non.
Plus,
non, ça c'est
je sais
des.
Pas, le truc que vous mettriez pour vous faire bien.
Non, non, c'est des phrases.
Bah non, c'est pas des phrases.
Ben si, c'est
un,
parce que.
Pour moi, c'est un sens. Moi, je sais qu'il y a mon film de chevet.
Avoir un sens, c'est aussi une phrase.
Certes. Il n'y a pas un film qui soit plus proche de votre cœur que tous les autres. Juste un.
Non, il y en a beaucoup.
Alors, vos films de chevet au pluriel, alors ?
Non, mais il y en a beaucoup trop. Il y en a plein, mais j'appellerais pas ça des films de chevet.
Des repères ?
Je l'appelle pas, non, des films qu'on aime bien, ou si on est un peu plus technique, ou scientifique, ou artistique, peut-être des repères. Non, c'est à ce moment-là que ça s'est passé, vu ce qu'il a fait, ça a eu. Etc. Mais j'appellerai.
Alors moi, des repères, ça me va très bien.
Non, mais il faut poser une question. Il faut au moins.
Quel film a servi de repère aux critiques des cahiers que vous étiez ?
Je pense les films de Hitchcock et Rossellini.
Qu'est-ce qui, dans les films d'Hitchcock, constitue un repère pour vous ? La mise en scène
Je dirais plutôt, pour parler comme vous, la mise en scène.
Je veux dire, c'est la manière dont c'est fabriqué.
Ou l'organisation de la mise en scène, pour être mise. L'organisation générale, pour être. C'est-à-dire le scénario aussi, mais qui ne peut être mis en valeur que par un certain don de mise en scène, que n'ont pas d'autres gens. Et si on compare à d'autres films, on trouve effectivement moins bien. Il y en a un qu'on oublie, qui est Chaplin. Ben c'était simple, les choses sont là, pourquoi les manipuler ? Voilà. Et la première manipulation, c'est la caméra.
Alors, la question va vous faire hurler. Moi, j'aime beaucoup. Un film dans lequel vous aimeriez vivre ?
Ah non, aucun. Okay. Non, non, mais toutes ces questions, ça je ne peux plus répondre maintenant, même en étant gentil avec vous. Non. Peut-être un film dont j'aurais aimé participer à n'importe quel poste au tournage, par intérêt. Mais ça peut être très bien. Un film de Straub, à l'époque, un film de Rivette, pour simplement être. Du reste, c'est comme ça que j'ai commencé. Dans le film de Romer, la sonate à Kreutzer qu'il avait fait, je joue un petit rôle. Enfin, c'est pas un rôle, je suis tout le temps assis et je fume une cigarette. Mais il me semble que j'avais. Aider à faire le film aussi, je sais pas comment.
Alors un film que tout le monde aime et qui vous laisse complètement de marbre.
Presque tous. Non, surtout maintenant, ça me laisse un peu de, oui, non pas de marbre, puisque je regarde un peu, je dis pas trop la télévision, même les choses que j'aime.
Non, mais je veux dire un classique, vous voyez, les grands films de, je sais pas moi, de Fellini.
Et que quoi ? Moi, j'aime plutôt les premiers Fellini que les derniers.
Alors, un film que vous connaissez, que vous trouvez vraiment très très réussi et que personne ne connaît, ça aussi, il doit y en avoir beaucoup.
Je sais pas. Je sais pas. Je saurais pas dire. John Sayles, c'est un exemple, parce que c'est beaucoup plus tard, et c'est tout à coup comme ça que je le vois en DVD. Je sais pas pourquoi j'avais pris ce film, ou acheté ce film, ou commandé ce film, et qui m'a, comme disent les Suisses, déçu en bien. Un film très curieux qui se passe au Mexique, à la frontière du Mexique et des États-Unis. Il y a toute une histoire d'un fils, le fils d'un shérif qui était une brute et comme ça, et d'une femme espagnole comme ça, puis qui se sont connus au collège, qui s'aimaient bien, puis se sont plus revus, puis 15-20 ans après, ils se retrouvent. Et la dernière scène, ils parlent de leurs parents. Et si on écoute bien ce qui se dit, on se dit, mais ils sont frères et sœurs. Et ils ne savent pas.
Ah, ils ne le savent pas.
Peut-être qu'ils s'en doutent, mais qu'ils n'en parlent pas. Ouais. Si vous regardez John Sayles, c'est un film très, très étrange, qui est très sympa. John Sayles, oui.
Alors, Lone Star.
Lone Star.
Okay.
Les trois seuls, oui.
Ah,
ben,
je vais regarder. Ah oui, Matthew McConaughey. Chris Christopherson. Joli casting. Votre voix de cinéma préférée? Acteur, actrice?
Ah ben, s'il faut en dire une au hasard comme ça vient, c'est la Agnès Moorehead, celle qui joue dans La Splendeur des Ambersons, hein, qui fait la compagnatrice et comme ça.
Qui joue aussi dans Citizen Kane.
Qui était une actrice de la troupe d'Orson Welles.
Votre salle de cinéma préférée?
Il n'y en a pas.
Ni à Rolles, ni à Paris.
Non.
Qu'importe la salle.
Je me souviens de la toute petite salle à San Francisco, quand j'ai connu Tom Leddy, le Bleecker Cinema. Ouais. La Bleecker Seats, c'est tout. Mais je me souviens comme ça. Ouais. Je me souviens d'autres aussi.
Vous vous asseyez devant ou derrière au cinéma?
Non, de plus, j'aime pas tellement. C'était la mode au cahier de s'asseoir devant. Mm. Et moi, j'aime mieux m'asseoir un peu au milieu.
Au milieu du rang et au milieu de la salle?
À peu près, si possible, dans une rangée vide. Mm. Je dois dire, je suis bien gentil de répondre à toutes ces questions.
C'est presque fini, je vous promets. Votre prochaine séance au cinéma, si vous retourniez au cinéma demain, ce serait pour aller voir quoi?
Oh, je ne crois pas que j'y retournerai.
Non?
Non. Ou peut-être si je vais à Paris et que je ne sais pas quoi faire, une après-midi ou un soir, si je passe deux jours à Paris, voir le film du jour, si vous voulez. C'est tout.
Quel est votre vœu cinéphile?
Un film ou un bout de film qui montre des choses que je n'ai jamais vues. Des fois, c'est d'anciens films qui me montrent que j'ai en DVD, je regarde des bouts et j'ai le sentiment que c'est tout nouveau, que ça n'a pas été fait. Il y a très rare dans ces films, c'est ceux-là mes préférés, mais j'aimerais qui est un film inconnu et qui me montre qu'on a filmé quelque chose qu'on n'a pas vu, pas su. Voilà, si je vois un film comme ça, ça je me dis, ben ça c'est bien, je suis content. En tant que cinéaste, mais en tant que spectateur aussi.
Merci Jean-Luc Godard. Vous me l'avez dit lors de notre conversation, vous avez accepté de me recevoir en souvenir de l'éloge de l'amour parce qu'on avait bien distribué le film. Et ben c'est moi qui vous suis reconnaissante infiniment. Je l'avoue, moi j'ai pour Jean-Luc Godard, au-delà de l'admiration et du respect, une vraie affection. Alors on va se dire au revoir, comme au cinéma, on va dérouler le générique. Je remercie mes invités, Patricia Mazui, Philippe Leguet, Jacques Audiard, Christophe Honoré, Alice Vinocourt, Isabelle Huppert, Bruno Podalides, Nicolas Saada, Arnaud Desplechin et Jean-Luc Godard. Merci pour votre disponibilité, merci d'avoir joué le jeu, revu les films et parlé de cinéma avec autant de gourmandise. Merci aujourd'hui à Audrey Guélil pour la mise en onde, merci à ma partenaire d'antenne Doria Zénine qui a réalisé l'émission avec finesse, gentillesse et beaucoup de cœur. Merci à Lila Bozas qui m'a assisté avec réactivité et efficacité. Merci à Jean Béguin d'avoir eu cette idée folle de me confier ces 10 heures d'antenne. J'espère que cette émission a réveillé le cinéphile qui dort en vous, qu'elle vous a donné envie de voir et revoir les films dont nous avons parlé. À ce propos, le pass sanitaire, le masque, c'est rien par rapport à l'intensité des émotions qu'on a quand on va au cinéma. J'ai adoré venir tous les jours en direct vous parler. C'est l'heure de se quitter. Passez un bel été. Prenez soin de vous. Au revoir.